conférence de Pierre Blanc, professeur de géopolitique à Sciences Po, dépasser l'analyse religieuse des conflits.
Il y a 25 ans déjà, le synode diocésain, pour sa part, a voulu et a créé une sorte d'observatoire permanent de cette vie du monde, plus spécifiquement dédié aux questions posées à et posées par ce qui est la vie du monde en général, dans les Landes en particulier. Cet observatoire permanent, il s'est appelé depuis le début et il s'appelle toujours la CERCA, la cellule de réflexion chrétienne sur l'actualité. Œcuménique de surcroît, deux mots pour finir pour vous présenter Pierre Blanc brièvement. Pierre est landais de toujours, docteur qu'il est en agronomie et en géopolitique, ingénieur des ponts, et j'oublie sans doute quelque autre diplôme majuscule dont il est aussi paré. Il est aujourd'hui professeur à Sciences Po Bordeaux et à Bordeaux Sciences Agro. Parce qu'en France, il est l'un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient qu'il ausculte depuis toujours. Il est en même temps rédacteur en chef à Paris.
C'est très centralisé. Tout
ça. C'est d'une revue qui s'appelle Confluence Méditerranée. Alors merci Pierre de ta précieuse collaboration. Merci de ta longue et fidèle amitié. Merci aussi de ta foi qui n'est pas étrangère à toutes les convictions et à toutes les analyses que tu vas maintenant nous partager sur le sujet que tu as choisi et que je te laisse présenter toi-même.
Merci beaucoup Bernard pour cet éloge pré-mortem. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je suis très touché d'être à tes côtés, toi qui comptes tant dans ma vie depuis que nous nous sommes rencontrés alors même que j'étais
en sixième.
Collégien.
En sixième.
Voilà. Et donc, c'est avec Bernard que j'ai beaucoup cheminé et que je me retrouve un peu aussi avec vous, avec grand plaisir, grande joie aujourd'hui, ce matin, avec mes amis de la CERCA que j'ai vus ici et qui vont venir après. Puisque nous, on a travaillé en CERCA sur l'identité, et donc mes amis vont venir présenter le texte après, je me suis dit, il faut peut-être trouver un sujet de conférence qui a un peu trait à l'identité. Et travaillant sur le Moyen-Orient en particulier, je me suis dit, bon, il faut peut-être revisiter cette région avec le prisme de l'identité, mais plutôt dans sa dimension religieuse. Parce qu'aujourd'hui, on convoque, dans une société qui est très sécularisée comme la société française, je crois que moins on comprend le religieux et plus on le convoque pour expliquer l'ensemble des conflits. Il n'est qu'à écouter, par exemple, Michel Onfray, qui n'est absolument pas une référence pour moi, mais qui, depuis son traité de la théologie, n'a de cesse de montrer que les religions sont par essence même violentes. Donc il y a beaucoup de raccourcis de cet ordre-là, et en disant cela, ce n'est pas pour nier la dimension religieuse des conflits, et ce n'est pas pour nier non plus la dimension très conflictuelle du monde aujourd'hui, qui est, on le sait, dans une situation qui devient très inquiétante, très très inquiétante. Je reviendrai, avant de revenir sur ce qui se passe, sur il y a à peu près 30 ans, et une trentaine d'années, on était dans un moment très prometteur. On semblait aller vers un monde très pacifié. C'était la fin de l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques, c'était la fin de la guerre froide. Et donc, cet affrontement entre les deux blocs qui avaient, que les spécialistes de relations internationales convoquaient pour expliquer tous les conflits, cet affrontement disparaît. Et donc, on a cette impression à ce moment-là que le monde va se pacifier définitivement. Il y a même un spécialiste de relations internationales qui s'appelle Francis Fukuyama. Comme son nom l'indique, il est américain, non, il est japonais, mais il est américain d'origine japonaise. Il annonce en 1989 la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Autrement dit, la fin de l'histoire dans ce sens où l'histoire est la production du conflit. Et donc, il considère que tous les pays, progressivement, vont basculer vers la démocratie libérale. Et considérant que les démocraties ne se font pas la guerre, eh bien, ce monde va se pacifier puisqu'il va... adopter dans son entièreté le régime démocratique. Donc on était vraiment dans un moment d'espoir, relayé d'ailleurs par des chefs d'État. Et George Bush, père, avait d'ailleurs en 1991 annoncé un nouvel ordre international. C'était dans la foulée de la première guerre du Golfe, vous vous souvenez, où pour la première fois l'ONU avait pu recueillir l'unanimité au Conseil de sécurité pour engager un conflit contre l'Irak et pour revenir au statu quo ante, puisque le Koweït avait été violé par l'Irak, le territoire du Koweït avait été violé par l'Irak. Autrement dit, on avait l'impression que le droit international allait pouvoir, dans ce nouveau contexte, être respecté. Donc il annonce le nouvel ordre international, et puis dans la foulée, il y a des événements qui sont très encourageants, puisque par exemple le processus de Madrid associe les pays arabes et Israël dans la foulée de cette guerre pour déboucher vers un processus de paix entre Israéliens et Palestiniens en 1993. Il y a également une tendance à la démocratisation, effectivement. Les Américains laissent faire certaines sociétés en Amérique latine, n'ayant plus peur de l'URSS. Les États-Unis laissent faire, la CIA n'agit plus, et il y a des processus démocratiques qui se produisent. C'est pareil en Afrique, il y a des commissions de transition démocratique qui sont convoquées. Et l'exemple le plus réjouissant à ce moment-là, c'est ce qui se passe en Afrique du Sud, avec la libération de Nelson Mandela après 27 ans de prison. Frédéric de Klerk, président blanc, le libère, des élections sont organisées, et puis... Mandela, au nom de la nation arc-en-ciel, procède à une politique de réconciliation extrêmement salutaire pour son pays, qui a vécu un régime d'apartheid. Voilà, les nouvelles qui s'accumulent semblent aller vraiment dans ce sens de la fin de l'histoire, autrement dit dans le sens d'une pacification du monde. Et puis, malheureusement, très vite, on a une accélération de phénomènes, ou plutôt un retour de la guerre, du conflit. La figure la plus proche de la violence étant la guerre en Yougoslavie, entre 1992 et 1995, 1999 si je vais jusqu'au Kosovo, guerre d'une, comme le sont les guerres, extrêmement barbare. En plus, c'est une guerre civile, ou plutôt une guerre incivile, donc avec toute la brutalité de ce type de guerre. C'est vrai aussi dans le Caucase, entre Arméniens, Azéris. C'est vrai en 1994, avec un génocide qui dure quelques mois, entre avril et juillet 1994, 800 000 morts entre Hutu et Tutsi. Et puis le conflit israélo-palestinien qu'on semblait être, dont on avait annoncé qu'il serait solutionné, eh bien en 2000, c'est le retour des armes, le retour de la violence politique. C'est également le développement de ce qu'on appelle le terrorisme islamique, dont on va parler, avec cet épisode tragique de l'effondrement des Twin Towers en septembre 2001. Ce sont les dérives en Occident, aux États-Unis, ce qu'on a appelé les dérives néoconservatrices, avec George W. Bush, le fils, qui, entre autres, mobilise une certaine lecture de la Bible, entouré qu'il est par des groupes évangélistes qui ont pris du poids depuis, d'ailleurs. Et donc, je pourrais ajouter d'autres éléments jusqu'à maintenant, avec notamment ce qui s'est passé en Birmanie, avec les violences commises par les Birmans au nom d'une certaine bouddhéité, d'un certain bouddhisme birman contre les musulmans rohingyas. Voilà les mauvaises nouvelles qui nous viennent depuis quelques années et qui soulignent la prégnance du facteur identitaire dans ce conflit-là. Et dans la liste que j'ai faite, vous voyez que le conflit religieux, enfin la dimension religieuse, semble particulièrement importante. Donc on ne peut pas nier cette dimension religieuse du conflit, c'est clair. Mais je vais faire quatre remarques supplémentaires. D'abord, quelque chose d'évident, c'est que, évidemment, si le religieux est évident dans beaucoup de conflits, il ne s'y réduit pas. Il y a des conflits qui sont identitaires, certes, mais qui n'empruntent pas à la religion. Je pense au Rwanda, dont on a parlé, c'était des chrétiens, Hutus et Tutsis, qu'on a qualifiés d'ethnies, mais qui étaient avant tout des éleveurs et des agriculteurs. Mais ça, c'est la vieille histoire coloniale. On a fait de ces catégories socioprofessionnelles des ethnies. On a ethnicisé la différence pour mieux diviser cette société. Donc il y a une aussi... Il faudrait revisiter ce conflit, évidemment, à la lumière coloniale. Mais ce n'est pas le lieu ici. La question kurde aussi, aujourd'hui, qui revient sous les feux de l'actualité, c'est une question avant tout... identitaire, de type national et pas religieuse. Après tout, ce sont des États dits sunnites qui empêchent à ces Kurdes majoritairement sunnites d'accéder à l'indépendance. Donc, premier point, le religieux, l'identitaire dans la conflictualité ne serait du pas religieux. Deuxième point, si effectivement le religieux est assez massif dans ces conflits, c'est peut-être pour deux raisons. Premièrement, la religion étymologiquement, sur le plan étymologique, pardon, vient d'un mot latin qui veut dire « relier ». Et c'est vrai que la religion a une capacité cohésive, elle fait cohésion. Mais après tout, sur ce plan, on pourrait dire que la langue fait aussi cohésion. Il n'est qu'à voir la catalanité affirmée de plus en plus en Espagne, elle l'est d'autant plus que la langue catalane est de plus en plus pratiquée. Donc la langue a une dimension cohésive forte aussi. Donc c'est peut-être pas une exception, cette fonction cohésive de la religion. Par contre, la religion, à la différence de la langue, a une autre force, c'est que elle a trait au sacré, et donc elle absolutise la différence. Et donc elle renforce, je pense, l'impression de légitimité dans un conflit entre le nous, qui partageons une vérité, parfois révélée, et le eux, les autres. À la différence de la langue, donc la religion peut-être ajouter cet élément de conflictualité. Troisième remarque, j'attirerai votre attention sur un effet déformant. Quand on parle de dimension religieuse, il y a un effet profondément déformant. Dans deux sens. Je m'explique. Premièrement, quand on dit dimension religieuse, on pense à des guerriers qui convoquent la religion et on ne pense qu'à eux. On ne pense qu'à ceux qui font le conflit au nom de la religion. Et d'ailleurs, il faudrait s'interroger sur l'état de leurs convictions. Mais on est incapable de savoir chez ces entrepreneurs de violence au nom de la religion, des miliciens qui font la guerre, on est incapable de savoir quelle est la part de conviction religieuse dans des entreprises qui sont souvent économiques. Pour avoir travaillé un petit peu sur les quelques conflits au Moyen-Orient, les miliciens, qu'ils soient musulmans, chrétiens, au Liban ou même en Syrie, sont aussi devenus des entrepreneurs économiques. Donc quel est l'état de leur conviction spirituelle? Je suis bien en peine de le dire. Donc on insiste sur ces figures qui convoquent elle, la religion, sans savoir effectivement quel est leur niveau d'adhésion religieuse. En même temps, quand je disais qu'il y avait un effet déformant, c'est qu'on ne voit pas, quand on parle de conflit de dimension religieuse, on ne voit pas tous ceux qui, justement, au nom de leur foi, s'engagent sur le chemin de la concorde, sur le chemin de la paix. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, mais on ne les voit pas. Un exemple récent, en Centrafrique, conflit entre... on ne va pas en parler ici, mais entre les anti-Balaka et les Selaka, bon, en gros, c'est un conflit entre agriculteurs et éleveurs, classique, entre centrafricains, plutôt agriculteurs, et communautés d'éleveurs venus de Tchad, qui sont plutôt musulmans. Donc, de fait, ce conflit entre éleveurs et agriculteurs se superpose à un conflit religieux. Les agriculteurs centrafricains plutôt chrétiens et les éleveurs plutôt musulmans. Bon, dans ce conflit où on instrumentalise le religieux, on ne voit pas, ou on n'a pas beaucoup insisté sur toutes ces initiatives de paix conduites, notamment par le cardinal de Bangui, mais aussi l'imam de Bangui et le pasteur de Bangui. Voilà. Donc on met moins la lumière, c'est là que je dis qu'il y a un regard un peu déformant, on insiste sur ces miliciens qui se battent au nom d'une certaine vision de la religion, et à côté de ça, on ne voit pas les artisans de paix, on les regarde assez peu. Quatrième remarque, il y a dans ces conflits à dimension religieuse, il y a peu de guerres de religion, je le crois. La guerre de religion étant entendue comme une guerre qu'on ferait à l'autre pour le convertir. C'est rare. C'est rare. Et même dans l'histoire des guerres en France entre protestants et catholiques, il y avait aussi des enjeux économiques. Mais c'est un conflit effectivement qui se rapprochait un peu plus parce qu'il y avait une volonté de, chez certains catholiques, de convertir les protestants. Là, c'était une guerre de religion. Aujourd'hui, c'est assez rare. La seule exception, me semble-t-il, c'est Daesh, l'État islamique, qui conduit vraiment une guerre de religion pour convertir les musulmans à sa propre vision de l'islam et les infidèles à l'islam. Voilà. Donc, il y a peu de conflits religieux. Par contre, il y a recours aux religieux et un recours massif. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, dans ces conflits identitaires, même si on ne fait pas la guerre à l'autre pour le convertir, on recourt aux religieux pour légitimer son combat. Mais, et c'est là que je voudrais insister aujourd'hui, dans ces conflits à dimension religieuse où on procède, où on recourt aux religieux, les causes sont souvent profanes, si je puis me permettre cette expression. En fait, cette expression, je la tiens d'un ami qui s'appelle Georges Combe, qui est professeur à Beyrouth, qui a été ministre dans son pays et qui a écrit un livre qui est remarquable, qui s'appelle « Pour une analyse profane des conflits ». Et je crois qu'il a raison. Autrement dit, il faut, derrière tous ces conflits, aux atours d'évidence religieuse, il faut aller voir derrière ce qui se passe. Et on est souvent sur des causes très triviales, économiques, sociales, géopolitiques. Donc c'est un peu là-dessus que je voudrais revenir ce matin. Même derrière des conflits qui ont une évidence religieuse, il y a toujours, avant tout, un soubassement foncier. J'ai parlé de la Yougoslavie, j'ai entendu des commentateurs dire que c'était une guerre de religion à l'époque. C'était quand même assez paradoxal quand on voit que les entrepreneurs de violence qui ont pris en otage les populations avaient été, avant ça, les dépositaires de l'athéisme d'État. Qui fut serbe, ou slovène ou croate. Bon. Il y avait derrière des raisons économiques et surtout un désir de revanche des États fédérés slovènes, croates, bosniaques qui avaient subi le joug de l'État fédéral yougoslave qui était dominé par les Serbes. Voilà. Donc rien de religieux là-dedans. Rien de religieux là-dedans. Et je pourrais donner d'autres exemples. Alors, justement, on pourrait faire une réflexion sur le monde. On peut faire un balayage ici, et il n'en manque pas d'exemples où on instrumentalise le religieux, où on recourt au religieux, et aujourd'hui, particulièrement dans ce moment de montée en puissance de l'identité, sur son versant le plus négatif, on pourrait s'intéresser à l'Asie, j'ai parlé de la Birmanie, même au Japon, qui est en train de faire émerger un nationalisme shintoïste. Même les Chinois sont en train de réhabiliter le confucianisme aujourd'hui, eux-mêmes qui l'ont balayé pendant très longtemps. La Russie, qui convoque l'orthodoxie, qui l'instrumentalise, et y compris, on l'a vu l'autre jour, avec l'Ukraine et la question de l'indépendance d'une église d'Ukraine, c'est profondément géopolitique tout ça avant tout. Hein. Et en Europe, on pourrait aussi parler de ce que fait M. Orban ou Kaczynski en Pologne, ils instrumentalisent le religieux, ils sont le dépositaire d'un néo-nationalisme religieux aujourd'hui. Bref, on pourrait faire un balayage vaste. Comme je ne suis pas connaisseur de tout, loin s'en faut, je vais modestement me concentrer sur une région. Je crois que c'est intéressant de revenir sur le Moyen-Orient à deux titres. Premièrement, parce que c'est le territoire à la plus forte conflictualité au monde. Donc, c'est quand même pas une marge sur le plan géopolitique. C'est le Moyen-Orient a une centralité sur le plan international en termes de potentiel de conflictualité. C'est très conflictuel. J'ai pas besoin de vous rappeler la guerre au Yémen, en Syrie, le conflit israélo-palestinien, avec toutes les répercussions internationales que ça a. C'est ça qui est très important. C'est l'épicentre, moi j'aime bien dire que le Moyen-Orient, c'est l'épicentre de la sismicité internationale. C'est-à-dire qu'il y a des répliques de ces séismes du Moyen-Orient, jusqu'en France. Quand il y a un conflit entre Gaza, entre les Palestiniens et les Israéliens, on voit bien en France combien ça se crispe. Et deuxième point qui permet, qui légitime qu'on s'intéresse surtout au Moyen-Orient ce matin, on n'a pas le temps de tout faire, c'est justement le fait que ce sont des conflits à forte ressource religieuse ou à fort ressourcement religieux. Évidemment, c'est le lieu même d'émergence des religions abrahamiques dans l'ordre chronologique, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors, en évoquant cette région du Moyen-Orient, je vais parler de trois conflits, trois sujets pour lesquels je vais essayer d'avoir une approche profane de ces conflits, pour non pas nier la dimension religieuse, ce serait crétin, mais pour le dépasser, pour voir ce qu'il y a derrière, et qui n'est pas si religieux que ça. Alors, premièrement, je vais parler d'Israël-Palestine, qui est au centre de la conflictualité, quoi qu'on en pense. Deuxièmement, l'islamisme. C'est assez paradoxal de parler de l'islamisme pour avoir une approche profane des conflits. Bon. Et enfin, les relations entre chiites et sunnites. Quand on aura fait ça, on sera à la fin de l'après-midi. Et évidemment, là, il y a un autre effet de loupe. Je vais parler surtout des musulmans et des juifs. Je vais peu parler des chrétiens, à part dans les questions, parce qu'ils ne sont pas porteurs des conflits en ce moment. Mais j'aurais pu parler de la guerre du Liban, dans laquelle les chrétiens, pendant entre 75 et 90, ont aussi été au cœur du conflit en produisant des milices, des entrepreneurs de violence, comme je les appelle. Et je rappelle que François disait, si je parle de violence islamique, et on va parler de violence islamique, je dois aussi parler de violence catholique. Il avait eu cette formule. Mais on ne va pas la regarder ici, on va surtout parler du judaïsme et de l'islam. Voilà. Si vous êtes d'accord, si vous en êtes d'accord, vous n'avez évidemment pas le choix. Le conflit israélo-palestinien, premier point, une analyse profane du conflit, ça veut dire encore une fois pas nier cette dimension religieuse, mais la dépasser. Et en l'occurrence, ce que je vais vous montrer, c'est que en fait, la dimension religieuse a été très tardive dans ce conflit. Aujourd'hui, elle est profondément installée dans le paysage. Aujourd'hui, la dimension religieuse est très, très présente. Mais elle est très présente alors qu'historiquement, elle n'était pas présente. C'est ça que je voulais dire. C'est un conflit qui était plutôt profane, entre guillemets. Mais à force de pusillanimité de la communauté internationale, eh bien, le religieux s'est installé du côté israélien et du côté palestinien. La dimension religieuse, elle saute aux yeux dans ce conflit, et il n'est qu'à regarder les informations d'hier. Jair Bolsonaro, qui semble être extrêmement éclairé, a dit, première décision, c'est quand même extraordinaire, je vais déplacer l'ambassade du Brésil à Jérusalem. Pourquoi il a dit ça? C'est simplement pour flatter une partie de son électorat qu'on appelle les évangélistes, qui sont des chrétiens comme nous, mais qui, sur le plan... Alors, certains évangélistes, là aussi, c'est jamais monolithique, qui ont une vision extrêmement messianique du christianisme, on pourrait dire fondamentaliste, mais peut-être dans les questions, on pourra en parler. Donc, dimension religieuse évidente. Pourtant, ce conflit n'a pas une origine forcément religieuse. Je vais faire une relecture rapide de ce conflit pour vous montrer que le sionisme est devenu tardivement religieux et le nationalisme palestinien est devenu tardivement religieux. C'est ça que je voulais vous dire. Premièrement, le sionisme. Alors, le sionisme a émergé au XIXe siècle dans un contexte où les juifs en Europe étaient persécutés, plus ou moins, en fonction des espaces. Mais jusqu'alors, chez les juifs, dans les communautés juives d'Europe, on vivait le judaïsme, la diaspora juive, comme une volonté de Dieu. On ne devait pas aller contre cette volonté de Dieu. L'herméneutique juive des rabbins consistait à dire « il faut accepter cet état de fait, cet état des juifs qui consiste à vivre en diaspora ». On n'a pas à précipiter le retour vers la terre des Hébreux, la Palestine. Pour autant, donc, la question de leur émancipation, de leur libération, de ce joug qu'ils subissaient, de cette violence qu'ils subissaient, se posait. Et déjà, les révolutionnaires français, en 1789, avaient voulu faire une émancipation par le haut, c'est-à-dire par la loi. Ils voulaient que les Juifs aient les mêmes droits que les autres. C'était pour mieux les assimiler, entre autres. Hein. C'était plus une émancipation à viser d'assimilation des Juifs. Bon. Mais chez les Juifs eux-mêmes en Europe, il y avait d'autres projets d'émancipation, de libération, pour en finir avec cette souffrance. Moi, j'appelle ça l'émancipation par le bas, c'est-à-dire, premièrement, une émancipation par le bas, qui était le fait plutôt des Allemands, des Autrichiens, juifs, qui considéraient qu'il fallait que les Juifs entrent de plein pied dans la culture occidentale en s'adonnant à l'apprentissage des sciences, mais aussi des langues des autres. Autrement dit, on allait s'émanciper en entrant de plein pied dans la culture des autres sans renier sa culture propre. On a appelé ça les Lumières juives. Ça, c'était plutôt le versant, enfin la vision allemande de l'émancipation. Et puis, il y a un troisième type d'émancipation qui est porté par des Juifs, c'est l'émancipation par le départ. Il faut s'en aller. Et là, c'est plutôt des Russes. C'est plutôt à l'Est, parce que c'est en Russie à la fin, que la situation est la plus catastrophique. Surtout en 1881, quand les Juifs ont eu à subir des pogroms, des pogroms suite à l'assassinat du tsar. Donc les Juifs sont accusés, et là, ils subissent des pogroms. Et il y a, à ce moment-là, un homme de la région d'Odessa, un médecin, qui écrit un livre en 1882 qui s'appelle « Auto-émancipation ». Auto-émancipation. Nous devons nous-mêmes nous émanciper. N'attendons rien des autres. Libérons-nous par nous-mêmes. Et ce médecin d'Odessa prône pour la première fois l'idée d'aller vers la Palestine qui est dirigée par les Ottomans en ce moment. Mais il s'appelle Léo Pinsker. Léo Pinsker n'était pas un pratiquant juif. Ce n'était pas du tout au nom d'une foi juive hein, qu'il proposait cette auto-émancipation. C'était surtout, il fallait trouver un refuge. Et d'ailleurs, il va créer les Amants de Sion. Les Amants de Sion, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui partent en Palestine pour faire de l'agriculture. Et puis ça ne marche pas. Ils tombent, ils sont malades de paludisme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il y en a un autre qui va prôner une émancipation par le départ, mais avec un projet plus ficelé sur le plan politique. On va parler de sionisme politique à ce moment-là. Un sionisme politique, autrement dit, un sionisme qui va être pensé politiquement et surtout qui va être pensé en accord, enfin, il va y avoir une stratégie d'approche des pouvoirs politiques de l'époque, les Ottomans et les Anglais. Donc ce sionisme politique, il est porté par quelqu'un que vous connaissez, Theodor Herzl, qui est un juif autrichien, austro-hongrois à l'époque, qui n'est pas du tout juif religieux. Il avait même, par contre, il a vraiment conscience que la situation des Juifs en Europe est catastrophique, Mais il avait même envisagé, lui, l'assimilation totale par le baptême. On voyait que le judaïsme, c'était pas trop son... c'était pas ce qui le mobilisait le plus. Il avait envisagé donc une sorte de catholicisation des juifs en Europe. On disait qu'il était conversionniste, c'était le mot. Voilà. Si j'insiste là-dessus, c'est pour montrer que le sionisme, originellement, n'est pas du tout religieux. Pas du tout religieux. Et puis, il vient à Paris, c'est le procès Dreyfus. Et là, il voit bien la montée en puissance de l'antisémitisme. Et il écrit ce livre, « L'État et des Juifs », dans lequel il appelle à la réalisation d'un projet d'émancipation par le départ. Par le départ. Et il privilégie plutôt la Palestine. Et il convoque d'ailleurs le premier congrès juif en 1897 à Bâle pour essayer de réaliser ce dessein. Il est intéressant de voir qu'à ce moment-là, lui-même qui n'est pas un juif religieux ou un sans-faux, il est intéressant de voir qu'il reçoit des critiques très virulentes des rabbins juifs qui sont clairement antisionistes à l'époque. Notamment les grands rabbins d'Europe en 1900. En 1900, il publie une sorte de brochure assez vaste. Le titre, c'est « Livre éclairant pour les honnêtes gens contre le système sioniste ». Ce sont les grands rabbins d'Europe qui écrivent ce livre. Et ils disent ceci, « Nous sommes le peuple du livre, nous n'avons pas trouvé, nous n'avons pas lu dans la Bible, ni dans la Mishnah, ni dans le Talmud, le mot nationalisme. » Pour eux, le nationalisme contrevient à l'esprit du judaïsme. On ne doit pas aller contre la volonté de Dieu, qui fait que les Juifs vivent en diaspora. Le grand rabbin de Lubavitch, donc c'était un courant du hassidisme, on dirait aujourd'hui ultra-orthodoxe chez les Juifs, écrit aussi au début du XXe siècle, « Ils, c'est-à-dire les sionistes, n'aspirent qu'à secouer le joug de la Bible et des commandements pour n'en conserver que le national. Voilà ce que sera leur judaïsme. Ils leur reprochent de ne se servir de la Bible que comme une espèce de droit de propriété sur la terre de Palestine, mais sans vision croyante. C'est plus la terre qui les intéresse que le ciel, en quelque sorte. » Voilà, et je pourrais en citer d'autres, des grands rabbins qui sont anti-sionistes à l'époque. Anti-sionistes. Je vous fais l'économie d'autres sionistes à l'époque, mais qui sont critiques de ce sionisme qui appelle au retour massif vers la Palestine, parce que je pense que le temps tourne et qu'il faudra privilégier le temps des questions. Bref, dans cette première phase, on voit que ce projet sioniste politique est très critiqué, par les Juifs eux-mêmes, et par les autorités rabbiniques. Il y a même, alors, puisque je l'ai dit, il y a un courant sioniste qui critique le départ en Palestine, qui s'appelle les sionistes territorialistes. Pour vous dire que même dans le sionisme, la question de la Palestine, ce n'est pas forcément une priorité. Les sionistes territorialistes disent qu'il faut surtout sauver ces citoyens juifs d'Europe qui subissent l'humiliation, et tant pis, si on nous donne l'Ouganda, on va aller en Ouganda ou on va aller ailleurs. Donc c'était sauver les populations. Ce n'était pas, si vous voulez, revenir, ce n'était pas du tout une lecture religieuse qu'ils avaient. Voilà. Alors, bien sûr, Herzl, c'est un sioniste politique, je reviens à lui, il va essayer de saisir les pouvoirs, les grandes puissances à ce moment-là, pour aller plus avant dans son projet. C'est un sionisme politique, diplomatique. Il approche les Ottomans, c'est les Turcs, hein, qui dirigent cette Palestine, et qui refusent cette idée d'implanter des Juifs dans l'Empire ottoman, même s'il y en a quelques-uns, hein, quelques milliers en Palestine à ce moment-là. Il se tourne vers les Anglais, aussi, grande puissance mondiale à ce moment-là, qui refusent, parce que les Anglais sont les alliés des Ottomans. Donc les Anglais ne veulent pas aller contre leur alliance. Donc c'est mal parti, cette histoire du sionisme, au début du XXe siècle. En fait, ce qui change tout, c'est le fait que l'Empire ottoman prend fait et cause pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, contre les Anglais. Or, les Anglais, qui était une thalassocratie, un pouvoir sur les mers, voulait accéder aux Indes facilement par le Moyen-Orient. Il s'était accommodé de la présence ottomane tant que les Ottomans étaient des alliés. Sauf que quand les Ottomans deviennent les alliés des Allemands, les Anglais s'engagent contre les Ottomans, et à ce moment-là, en 1917, ils promettent aux Juifs un foyer national en Palestine. Voilà. Et c'est ça qui permet finalement la première victoire du sionisme, qui aurait pu être finalement, qui aurait pu disparaître tout de suite des écrans radars de l'histoire. Il y a un phénomène conjoncturel, fortement conjoncturel, la guerre, la Première Guerre mondiale, dont on fête, commémore, pardon, le centenaire de la fin. Oui, voilà la carte, hein, le canal de Suez que les Anglais utilisent pour aller vers les Indes. Hein, donc c'est un territoire stratégique, ce Moyen-Orient. Les Anglais créent ensuite en 1920, on leur crée un mandat sur la Palestine, qui au départ était la Palestine et la Jordanie, et puis en 1922, on sépare la Palestine et la Jordanie, peu importe. Et vous le savez, à partir de ce moment-là, beaucoup de Juifs d'Europe vont aller en Palestine. Ils vont y aller d'autant plus que la peste brune monte en Europe, avec effectivement l'apogée, le paroxysme dans les années 30 en Allemagne. Donc en Palestine, je ne perds pas le raisonnement, en Palestine, ces Juifs qui arrivent s'apparentent à trois courants. Et on va voir que les courants qui dominent ne sont pas du tout religieux. Au centre, vous voyez David Ben-Gourion. David Ben-Gourion, c'était un Polonais d'origine et il était plutôt d'inspiration socialiste, presque marxiste. Il n'était pas religieux du tout. Son projet, parce qu'en fait, la question qui s'est posée aux Juifs à ce moment-là, entre 1920 et 1948, c'est quel État on va créer pour les Juifs et quelle relation avec les Arabes, qui sont là, les Palestiniens. Ben-Gourion, lui, dit ben, quel État ben, on va se contenter du mandat, de la carte du mandat anglais, c'est-à-dire la petite Palestine, on va dire, en blanc, là, sur la droite, que vous voyez. Et puis, on va acquérir la terre par le travail des hommes, par l'agriculture, avec les kibbutzim, les kibbutz, surtout. À ça, et c'est vraiment le courant qui domine. Ensuite, vous avez Vladimir Jabotinsky, qui représente la droite, qui est à l'origine du parti du Likoud, aujourd'hui, de M. Netanyahu. Jabotinsky, lui, il a été longtemps partisan de la grande Palestine, au-delà du Jourdain. Il ne se contentait pas de la petite Palestine imposée par les Anglais. Et on retrouve ça dans la droite israélienne aujourd'hui, d'aller presque jusqu'au-delà du Jourdain. Donc on le retrouve. Et lui, ce n'était pas par le travail, c'était par les armes qu'il considérait qu'il fallait prendre la terre. Mais ce n'était pas par référence à la Bible, hein. Pas du tout. C'était pas spirituel, pas du tout. Le seul groupe plus spirituel de juifs, on va dire, s'engage en politique avec certaines convictions religieuses, c'est par exemple Martin Buber, grand philosophe juif à l'époque, qui a été doyen de l'université hébraïque de Jérusalem, qui fonde Brit Shalom. Brit Shalom, c'est, et on voit l'insigne, c'est très intéressant, c'est un arabe, en hébreu et en anglais, puisque c'était mandat britannique. Avec donc cette idée, pour Martin Buber, qui était un juif religieux, que on ne pouvait pas faire un État sans les autres, c'est-à-dire sans les Palestiniens. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le jeu et le tu », c'était vraiment un philosophe de l'altérité, l'autre étant le plus court chemin vers soi-même. Et cette philosophie, il applique à la situation politique. Il considère que le futur État ne peut pas s'exonérer de la présence des Palestiniens. Il écrit ceci: « Notre souhait national de reprendre la vie du peuple d'Israël dans son territoire ancestral n'est toutefois pas dirigé contre notre peuple. Le peuple juif, qui fut lui-même une minorité persécutée dans tous les pays du monde pendant 2000 ans, rejette avec horreur les méthodes de domination nationaliste dont il a lui-même si longtemps pâti. » Il le sait. Nous n'aspirons pas à regagner la terre d'Israël avec laquelle nous avons d'indissolubles liens historiques et spirituels à la fois, avec l'intention d'éliminer ou dominer un autre peuple. Voilà. Donc, dans ces trois courants, celui qui est finalement le plus dépositaire d'un certain esprit du judaïsme ou d'une certaine foi juive, c'est peut-être le courant le plus cohabitationniste. Je vous rappelle qu'on essaie de dépasser l'approche religieuse des conflits. Et là, on voit bien que les religieux sont à ce moment-là plutôt du côté de la cohabitation. Et bon, l'histoire, vous la connaissez, c'est finalement le courant central socialiste qui va dominer, notamment parce qu'ils viennent plutôt de l'ex-Russie, territoire marqué par le socialisme. Et la traduction, c'est le déploiement de ces structures collectivistes, les kibbutzim, qui viennent donc mailler progressivement le territoire jusqu'en 1948. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a des réactions palestiniennes, première révolte paysanne palestinienne entre 1936 et 1939. Et évidemment, cette conflictualité qui monte entre les sionistes, encore Israël, et les Palestiniens, ne fait pas le jeu de ceux qui sont pour la cohabitation. Martin Buber. Il y a une polarisation, une radicalisation qui s'opère. Et puis, je passe cette histoire, parce que je ne vais pas parler du conflit israélo-palestinien, mais de la dimension religieuse. Et on en arrive à 1947, à cette situation ingérable pour les Anglais, vous le savez, où les Anglais ne peuvent plus faire, ne peuvent plus gérer cette situation entre des sionistes qui ont commencé à grignoter le territoire, vous voyez en blanc ici, et puis les Palestiniens. Et ils proposent un partage, que vous connaissez tous, en 1947, en deux États, un partage très déséquilibré au détriment des Palestiniens, comme vous pouvez le voir sur la carte, alors qu'ils sont majoritaires, de loin, on leur donne un territoire qui représente 43% à peine. Bon. Mais peu importe, ça donne lieu à la guerre de 48. Et derrière, vous avez donc l'État d'Israël qui est créé. Donc, c'est ce que vous voyez sur la droite, ici, en blanc. L'État d'Israël est créé, et là, dominent les travaillistes. Ils vont dominer de 1948 à 1977. Donc, c'est plutôt la gauche sioniste, pas religieuse, qui domine dans le paysage. Et c'est en 1967 que ce gouvernement de plutôt travailliste fait la guerre des six jours et guerre déclarée par les Arabes hein, de l'Égypte, la Syrie notamment, et en six jours les Israéliens la gagnent. Mais le problème, c'est que les Israéliens ne se sont pas arrêtés là. Ils auraient pu très bien, après la victoire, se retirer, évidemment, et notamment pour respecter le droit international, la résolution 242 qui à ce moment-là les obliger à repartir. Ils ne l'ont pas fait, et je pense que c'est pouvoir dire que c'est vraiment le début de la défaite d'Israël. J'aurai l'occasion, si vous voulez, dans les questions, d'en parler, de la défaite morale qui va suivre. Ils violent le droit international depuis 1967, et notamment avec la colonisation. Alors justement, c'est là que la dimension religieuse va s'enraciner dans le conflit du côté juif. Pourquoi ? Parce que, avec le fait de. Je vous ai mis tout. Avec vous voyez, Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, où il y a le mur des Lamentations, qui est un haut lieu du judaïsme, qui était évoqué par les Juifs jusqu'au XXe siècle, l'an prochain à Jérusalem, et c'était ce mur. Il fallait aller. Voilà, le rêve c'était d'aller prier. Eh bien, avec l'occupation à partir de 67, on accède à cette vieille ville. De même, en bas à gauche, vous avez le tombeau de Rachel à Bethléem, qui est pris par la guerre de 67. Puis vous avez le tombeau des patriarches à votre droite à Hébron. Tout ça, si je dis ça, c'est parce que ça va exalter un certain sionisme religieux, justement, à ce moment-là. À ce moment-là, il y a un sionisme religieux qui va s'ancrer dans le paysage sioniste, qui jusqu'alors était dominé par les travaillistes, et notamment avec quelqu'un qui s'appelle Moshe Leibinger, qui fonde le Gush Emunim après cette guerre des six jours. Le Gush Emunim, ça veut dire le bloc de la foi, qui appelle à la colonisation de la Judée-Samarie au nom d'un droit imprescriptible à se saisir de la terre des Hébreux. Et il considère que les temps messianiques sont là. Moshe Leibinger dit ceci, ce ne sont pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas noté, mais de mémoire, ce n'est pas nous qui provoquons les temps messianiques, ce sont les temps messianiques qui viennent à nous. Autrement dit, ils interprètent la guerre des six jours avec la saisie de ces lieux saints pour le judaïsme comme la volonté de Dieu. Et ça va faire basculer donc un certain nombre d'Israéliens vers ce sionisme religieux. En tout cas, ça va lui donner une certaine influence. je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, ce sionisme religieux qui avait été très marginal, il va monter dans le paysage. Et surtout, il va s'associer à... parce que c'est ces sionistes religieux qui vont constituer les plus engagés parmi les colons, parmi ceux qui sont prêts à aller en Judée-Samarie. Et ils vont s'associer à une force politique, la troisième dont j'ai parlé tout à l'heure, le Likoud, hein, qui est la droite israélienne. C'est cet alliage entre les sionistes religieux, Gush Emunim, prêts à coloniser les territoires, et la droite sioniste israélienne, qui n'est pas très religieuse ou peu religieuse. C'est cette association qui va prendre le pouvoir en 1977.